Vous écoutez, on lit pour vous.
Lettre ouverte aux femmes sans enfants. Un texte de Stéphanie Boulay, paru le 31 mars 2025 dans Nouveau projet. À l'aube de la sortie de son deuxième album solo, l'autrice-compositrice-interprète réfléchit à l'idée fixe et vieille comme le monde de la reproduction. À une ère où on parle de plus en plus, enfin, de la liberté de choisir. Les femmes qui s'abstiennent de devenir mères doivent-elles absolument être en paix avec leurs décisions? À toi qui n'as pas d'enfant. Toi qui es rendue trop vieille pour en avoir, ou juste sur le bord de. Toi qui n'as pas hâte de le devenir, toi qui sais déjà que tu n'en veux pas, même si tu es encore jeune. À toi qui ne sais pas aussi. Toi qui changes d'idée tous les jours, mais qui reviens toujours à non. À toi qui en veux, mais qui ne trouve personne avec qui en avoir. À toi qui aurais peut-être trouvé le bon ou la bonne, mais qui hésite à faire confiance à quelqu'un parce qu'on t'a trop souvent laissé tomber. À toi qui penses en avoir seul, mais qui a trop peur de ne pas arriver à tout gérer sans virer sur le top. À toi qui dis que tu n'en veux pas, mais qui espère secrètement rencontrer quelqu'un qui te dirait « oui ». À toi qui pourrait changer d'idée. À toi qui ne peut juste pas. Tu as peut-être déjà lu que la valeur d'une personne avec un utérus ne se calcule pas en progéniture. Tu sais que tu peux être heureuse sans, que la carrière et les amis, c'est tout aussi important. Tu sais que le monde est à ta portée et que tu peux toujours sortir, voyager, aller au resto, au théâtre, au cinéma et faire l'amour quand tu veux. Tu sais que tu as plus d'argent, de temps et de sujets de conversation dans ta poche. Tu veux brasser des affaires, brasser des idées, changer le monde ou juste chiller. Tu t'imagines en Simone, en Frida, en Rosa ou en Marjo. Tu écoutes Jeanne de Brassens et tu t'imagines en mère universelle. Tu te dis que tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à toi. Tu te dis que tout va trop mal pour imposer ce monde à quiconque de nouveau de toute façon. Tu te dis que tu n'as pas reçu assez de tes parents pour pouvoir offrir quelque chose de beau. Ou que tu as déjà assez de troubles à essayer de gérer ta propre santé mentale qui tient de peine et de misère. Moi, je vais quand même te dire, t'as le droit d'être triste des fois, ou même souvent. T'as le droit de pleurer ta ménopause, tes ovaires, polykystique, ta ligature des trompes ou ton hystérectomie. T'as le droit de pleurer ton absence d'excuses ou de raisons. T'as le droit d'avoir le regard dans le vague après avoir croisé une famille unie à l'épicerie. D'être fâché contre ton chum ou ta blonde, de ne pas en vouloir. T'as le droit, des fois, d'espérer de trouver un autre chum ou une autre blonde. T'as le droit de ne pas encore avoir effacé la petite liste de prénoms dans ton application de notes sur ton cellulaire. T'as le droit de ne jamais l'effacer, même. T'as le droit de penser encore à ton avortement, même si tu ne voulais vraiment pas de cette grossesse-là, ou de regretter ta décision aussi, même si tu n'es pas obligé de le dire à personne. T'as le droit de trouver que les femmes nullipares et âgées ont l'air d'avoir une petite crotte éternelle sur le cœur. T'as le droit d'être bien là, tout de suite, mais d'avoir infiniment peur de t'en vouloir quand il va vraiment être trop tard. T'as le droit de regarder les profils de donneurs de sperme sur Internet un lundi matin, juste de même. T'as le droit de souhaiter un hasard. Ou un accident. T'as le droit de te demander qui va te laver, te couper les ongles d'orteil ou t'arracher les poils de menton quand tu ne pourras plus le faire toute seule. T'as le droit d'imaginer tes funérailles et de constater qu'il n'y aura pas grand monde là. T'as le droit de trouver ça bizarre, de te rendre compte que tu sais pas trop quel nom écrire sur ton testament. T'as le droit de te demander si quelqu'un va se souvenir de toi 10 ans après ta mort. Si tu vas avoir légué quelque chose à quelqu'un ou si ton existence va avoir servi un dessein plus vaste. Entre nous, ce sera sûrement pas le cas, mais c'est vraiment pas grave. T'as le droit de ne pas répondre. J'en voulais pas, de toute façon, quand on te posera la question. T'as le droit d'avouer que t'as l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand et que tu ne le sauras peut-être jamais si t'es en paix avec ça. Que t'as juste attendu le bon moment ou la bonne personne et que finalement, c'est jamais venu. T'es pas toute seule, en tout cas. C'était « Lettre ouverte aux femmes sans enfants », un texte de Stéphanie Boulay, paru le 31 mars 2025 dans Nouveau Projet.
Les Québécois ont une bonne opinion des élus des petites villes. Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir. Malgré les turbulences et les démissions qui ont décimé plusieurs conseils municipaux du Québec depuis le scrutin de 2021, l'électorat québécois des petites villes conserve une bonne opinion de ses élus et se montre généralement satisfait des services rendus par sa municipalité. Ces constats ressortent d'un coup de sonde réalisé par la firme Léger à la demande de la Fédération québécoise des municipalités, FQM. Quelques 1500 personnes ont répondu au sondage en ligne, le premier exercice de cette envergure à prendre le pouls de l'électorat dans les municipalités de 100 000 âmes ou moins. Les résultats du sondage montrent que la population québécoise accorde sa confiance à ses maires et à ses mairesses, 29 % bien plus qu'à ses députés provinciaux, 12 % et fédéraux, 8 % et qu'aux autres membres des conseils municipaux, 8 % Avec 69 % de satisfaction, les maires et les mairesses trônent au sommet de la pyramide politique en matière de notoriété et de confiance, tous ordres de gouvernement confondus. Environ 41 % des personnes interrogées souhaitent d'ailleurs maintenir au pouvoir l'équipe en place aux prochaines élections. A contrario, 28 % des gens souhaitent montrer la porte à l'administration aux commandes et environ le tiers des sondés, 31 % ignore l'issue souhaitée au scrutin de novembre 2025 ou refuse de statuer. Ça ressemble au roulement habituel, maintient Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, préfet de la MRC de Memphrey-Magog et président de la FQM. À chaque élection, nous changeons grosso modo la moitié des maires et des mairesses. Un vent de renouveau. Autant la population manifeste un désir de stabilité, autant elle aspire à un vent de renouveau dans les conseils municipaux. L'électorat a soif d'élus plus jeunes, 71 %, plus féminins, 70 % et plus diversifiés, 51 % dans les hôtels de ville, confirmation d'une tendance déjà amorcée il y a 4 ans avec l'arrivée d'une nouvelle vague dans le paysage municipal. Les dernières élections ont vu des femmes, surtout des jeunes, prendre le pouvoir dans la moitié des grandes villes du Québec, souligne Jacques Demers. Ce sont des femmes qui ont joui d'une notoriété importante et qui ont su montrer leurs compétences en cours de mandat. Leur influence semble maintenant atteindre les plus petites localités où la population aspire à son tour à des conseils municipaux plus diversifiés. Le salaire demeure toutefois un obstacle à l'arrivée des femmes dans l'arène municipale. Quand les salaires sont décents, nous constatons, par exemple au provincial et au fédéral, que les hommes et les femmes se présentent dans les mêmes proportions, affirme le président de la FQM. Les salaires des petites villes sont trop bas, et ce n'est pas la faute de personne, sinon des élus municipaux eux-mêmes, qui sont trop gênés pour s'accorder un salaire adéquat. La population n'a qu'une connaissance approximative des revenus de ces élus, indique par ailleurs le sondage Léger, qui note que, même si la moitié des répondants n'a aucune idée du salaire moyen d'un maire, cette ignorance ne les empêche pas d'avoir une opinion tranchée sur la question. Plus d'un répondant sur cinq, 22%, croit que les élus dans les localités de moins de 5000 âmes méritent un meilleur salaire. À l'inverse, 34% des personnes interrogées jugent que le salaire des élus dans les villes de plus de 50 000 âmes est excessif. À peine 51% des répondants estiment que la rémunération des élus municipaux correspond à leur charge de travail et à leurs responsabilités. L'idée que les élus devraient avoir le pouvoir de déterminer eux-mêmes leur salaire rallie seulement 2% des répondants. Quelque 30% d'entre eux disent plutôt souhaiter que cette responsabilité incombe à une organisation indépendante, comme Élections Québec, alors que 20% aimeraient que ce soit le gouvernement québécois qui décide la rémunération des élus. Enfin, plus du quart des répondants, 27%, estiment que la population devrait choisir elle-même la rémunération de ses représentants. Ça reste une maudite belle job. Depuis la dernière élection, 11% des élus ont jeté l'éponge, soit une proportion deux fois supérieure au taux de démission observé au cours des précédents mandats, précise Jacques Demers. Le coup de sonde montre que l'électorat attribue cette vague de départ aux tensions qui minent les conseils municipaux et au harcèlement dont les élus font l'objet. Seulement 51% des répondants estiment, par ailleurs, que la population accorde à ses représentants le respect qui leur est dû. Est-ce qu'il y a de l'intimidation? Oui. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Certainement, avance le président de la FQM. Les démissions vont en s'accélérant et il faut s'attaquer à cet enjeu, ajoute Jacques Demers, qui préfère néanmoins voir le verre à moitié plein. En même temps, nous parlons moins de la grande majorité des élus qui demeurent en poste, qui adorent ce qu'ils font et qui comptent se présenter à nouveau en novembre. Je ne le dis pas pour cacher ce qui ne va pas bien, mais pour rappeler que la job qu'on fait, ça reste une maudite belle job. C'était « Les Québécois ont une bonne opinion des élus des petites villes », un texte de Sébastien Tanguay paru le 19 mars 2025 dans Le Devoir.
Un 800 tabou, offrir un service d'écoute et de prévention pour les adultes susceptibles de commettre des délits sexuels sur des mineurs, c'est le pari de la ligne québécoise « Ça suffit ». Un texte d'Amélie Daou-Boisvert, paru dans le magazine L'Actualité. Dans un petit local de Laval, la personne bénévole qui répond au téléphone ce jour-là a l'habitude des confidences sur un sujet tabou. Son interlocuteur s'est livré sur ses pensées sexuelles qui impliquent des enfants. Il avait vraiment besoin d'en parler, raconte-t-elle, après la conversation. Ses fantasmes sont inacceptables. Il le sait, lui a-t-il dit. Le nom du service est d'ailleurs limpide. Ça suffit. Le but, écouter les adultes qui risquent de commettre des crimes sexuels envers des mineurs et les diriger vers des ressources d'aide. Le besoin est là. Le taux d'affaires d'exploitation sexuelle en ligne d'enfants recensés par la police ayant triplé de 2014 à 2022, selon Statistique Canada. Les mineurs représentent la moitié des victimes d'agressions sexuelles québécoises, souligne le ministère de la Sécurité publique. Créé en 2021 par le Centre d'intervention en délinquance sexuelle, un OSBL de Laval, la ligne s'inspire de Stop It Now, qui existe depuis 2002 au Royaume-Uni, et de Don't Offend, fondé en 2005 en Allemagne. Talking for Change, en Ontario, répond en anglais depuis 2021 à des appels de partout au Canada. Tous ceux qui contactent le service ne sont pas nécessairement des prédateurs, insiste Yves Paradis, sexologue et directeur du Centre d'intervention en délinquance sexuelle. Avec la ligne, on envoie le message « Va chercher de l'aide, mon gars, car ça fait des dommages », dit-il. Le professeur de psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Joyal, l'un des rares spécialistes de la question dans la province, juge les efforts de prévention timides, vu la prévalence de ce type d'attirance. Selon les études, de 3 à 9 % des hommes et de 1 à 4 % des femmes entretiennent des fantasmes sexuels envers les enfants prépubères. Environ 1 % de la population est déjà passé à l'acte, soutient-il. Pour se faire connaître, la ligne emprunte différents moyens, comme des publicités sur des sites pornographiques légaux et dans les abribus. Avec succès, en 2024, le nombre d'appels a cru de 57 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à un peu plus de 700. Le matin de la visite de l'actualité, la personne bénévole, dont l'organisme souhaite préserver l'identité, avait déjà reçu plusieurs appels et deux demandes de clavardage. Un homme, lui ayant raconté avoir regardé de la pornographie juvénile, ne semblait pas comprendre qu'un tel geste constitue un crime. Je lui ai rappelé que c'est illégal et qu'il faut aller chercher de l'aide, dit-elle. Une cinquantaine de bénévoles, tous étudiants dans un domaine pertinent, comme la sexologie ou la criminologie, appuient la petite équipe composée du directeur, de deux coordonnatrices criminologues, d'une sexologue et d'une chargée de projet. Le service garantit la confidentialité des appelants. Quand les renseignements communiqués permettent d'identifier une jeune victime, l'intervenant procède toutefois à un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, conformément à la loi. Le préjugé qu'on aide des pédophiles a la vie dure, déplore Christian Joyal. Pauline Delphini, l'une des criminologues de l'équipe, estime pour sa part qu'il y a de l'hypocrisie à attendre qu'un geste soit commis pour fournir du soutien. Les tabous nuisent aux efforts de financement de « ça suffit », affirme-t-elle, ce qui limite les heures de fonctionnement du service offert durant la journée du lundi au jeudi. Avec un plus gros budget, on répondrait aux gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dit Clara Audouin, l'une des coordonnatrices. Ça doit devenir un réflexe de nous appeler, comme pour les lignes de prévention du suicide. C'était un 800 tabou, offrir un service d'écoute et de prévention pour les adultes susceptibles de commettre des délits sexuels sur des mineurs, c'est le pari de la ligne québécoise « Ça suffit », un texte d'Amélie Daou-Boisvert, paru dans le magazine « L'actualité ».
Maxence Garneau, entre légèreté et vulnérabilité. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 24 avril 2025 dans le magazine Fugue. Après une participation remarquée à la première saison des Traîtres, Maxence Garneau montre une autre facette de sa personnalité dans Si on s'aimait. Connu pour sa flamboyance et son humour sur les réseaux sociaux, il affiche sa vulnérabilité dans la populaire émission de dating et de thérapie. Pourquoi voulais-tu participer à Si on s'aimait? Je suis un grand fan de l'émission. J'ai vu toutes les saisons et j'aime beaucoup Louise Sigouin. Quand on m'a approché, je voyais l'occasion qu'elle me donne ses conseils directement. Cela dit, ce n'est pas une décision prise à la légère. C'est beaucoup d'intimité et de vulnérabilité. Sur mes réseaux sociaux, ce ne sont pas des zones que je fréquente. Je préfère montrer mon côté flamboyant, qui a du fun et qui rigole. Je me suis demandé si j'étais prêt à présenter ces aspects de moi. Il a aussi fallu que je pense au fait que ma famille verrait ces côtés-là de moi. En thérapie, on parle quand même de son passé. Comment expliques-tu ton aisance à vivre cette thérapie publiquement? Quand j'étais jeune, j'ai manqué de modèle. Durant mon processus décisionnel, je me suis dit que, plus jeune, j'aurais voulu voir quelqu'un comme moi qui révèle sa réalité en toute franchise. Je voulais offrir de la visibilité aux communautés queer et à ma réalité pour permettre à des jeunes et moins jeunes de voir des modèles différents à la télé. Aussi, j'ai réalisé que ce serait peut-être bon que les gens sachent que je suis également profond, fragile et vulnérable. Les candidats à l'étape du speed dating étaient choisis par la production. Était-ce stressant? Beaucoup. J'allais passer 7 semaines avec une personne, alors imagine si ça ne cliquait pas. Je voulais vraiment travailler sur les relations amoureuses et le dating, alors il me fallait un certain intérêt pour l'autre. Quand j'ai vu le premier candidat arriver, je savais que j'avais de l'intérêt pour lui. On s'était déjà embrassés. Je me voyais faire l'aventure avec lui et je sentais que ça allait travailler les bonnes affaires. Ça m'a tellement enlevé un poids. Que pensais-tu de travailler en thérapie avec Louise? Je savais que mon enjeu principal était mon sentiment de rejet dans les relations avec les hommes. Ensuite, il y a la thérapie de duo qui embarque dans le processus. On dirait que j'avais oublié cet aspect-là. J'ai beaucoup travaillé sur le fait de dire les choses à l'autre, de mettre mes limites et de confronter un peu par moment. Dans la vie, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Également, je suis un solitaire. Avant les tournages, ça faisait 10 ans que j'étais tout seul. J'avais peur de l'envahissement. Le couple représentait un deuil pour moi, parce que je suis déjà dans le jus avec ma vie. Alors devoir composer avec les vies de l'autre, ça m'angoissait. En plus, je devais laisser entrer des gens dans mon intimité. Une équipe de tournage de 6 personnes et ma date qui débarquait. Ça m'a fait beaucoup évoluer. À quoi ressemble l'investissement en temps pour l'émission? Au total, on a tourné pendant près de 8 semaines. Une semaine type impliquait la thérapie du mardi, puis 3 jours de dating les mercredis, vendredis et dimanches. Les journées sans date, on était souvent en train de préparer ce qu'on allait faire le lendemain. Et dans une journée de date, il y avait plusieurs activités, ce qui nous donnait parfois l'impression d'avoir plusieurs dates le même jour. C'était très différent de mes habitudes. Souvent, en dating, je voyais un gars une fois par semaine ou par 2 semaines. T'es-tu préparé à recevoir des commentaires homophobes et disgracieux comme ce fut le cas durant les traîtres et quand tu publies du contenu sur les réseaux sociaux? Oui. En plus, TVA est une chaîne qui génère beaucoup de commentaires. Je savais, en acceptant de participer à l'émission, qu'il y aurait des commentaires à ce sujet. Surtout que dans « Si on s'aimait », on french à l'écran et on s'affiche dans un aspect relationnel homosexuel. Au traître, les gens commentaient souvent mon identité, mais le sujet de l'émission n'était pas les relations homosexuelles. J'ai nommé à la fin que j'étais queer, mais ça ne faisait pas partie du show. Donc, je savais que Nicolas et moi allions s'exposer à ça. En voyant tous les commentaires que Marc-Antoine Delage a reçus cet hiver à Star Academy, je me suis dit « Oh boy, c'est vrai que ça s'en vient pour nous aussi ». Le 4 avril, tu as participé au cabaret Accent Queer en faisant un numéro d'humour de réplique aux haters. Le public a adoré ça. Te verrais-tu faire du stand-up? Le cabaret accent queer m'a donné envie de faire du stand-up. Ça a toujours été un rêve sous-jacent. À l'université, j'ai étudié en animation télé et quand on faisait nos émissions au bac, on avait des monologues d'ouverture. C'est ce que je préférais écrire et ce que je réussissais le mieux. Depuis ce temps, l'envie de faire du stand-up existe. Mais je ne m'en étais jamais rapproché autant qu'en participant au cabaret. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Tu assumes ta flamboyance, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Quelle a été l'évolution à ce sujet? On évolue tous dans une société genrée. Les cases de genre sont assez restrictives. Quand j'étais jeune, mes envies ne cadraient pas avec ce qu'on attendait d'un petit garçon. À la garderie, je me suis vite fait mettre à part parce que je n'avais pas les mêmes intérêts que les autres petits gars. Aussi, j'étais un enfant très insécure, émotif et fragile. Ça ne m'aidait pas à prendre ma place pour assumer mes envies. Qu'en pensait ta famille? J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante où j'ai eu beaucoup de liberté, mais mon père est un gars de bois, un chasseur et un pêcheur. Les attentes de ma famille paternelle ressemblaient à ça. À 8 ans, je conduisais le skidoo et je fonçais dans les arbres. Ce n'était clairement pas ma destinée. Plus j'avançais dans la vie, plus j'avais l'impression de ne pas répondre aux attentes. Ça a été long avant que je comprenne que je n'avais pas besoin de me limiter dans mes désirs de flamboyance, dans mes passions et dans ce que j'avais envie d'être. Te verrais-tu participer à Big Brother Célébrité ou c'est fini pour toi les télé-réalités? Si j'en faisais une autre, il faudrait que ce soit une émission qui m'amène ailleurs et que ce soit un bon moment pour moi. Je fonctionne à l'instinct pour prendre mes décisions. Je m'étais dit qu'après Si on s'aimait, ce serait terminé pour moi les télé-réalités, mais en même temps, je ne peux pas dire jamais. Je suis un fan de Big Brother. J'aimerais participer à un jeu stratégique où on a le temps de penser et d'élaborer une game sociale, alors que le tournage de l'émission Les Traîtres se passait tellement vite. Il y a quelque chose qui m'attire dans BBC, mais l'idée d'être enfermé durant des semaines, ça m'angoisserait pas mal. C'était Maxence Garneau, entre légèreté et vulnérabilité. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 24 avril 2025 dans le magazine Fugue.